On peut revenir sur Claude Lorius dans les années 70, et donc c'est quand même lui qui a mis en évidence qu'il y avait une augmentation du réchauffement climatique et justement du dioxyde, du CO2 dans les glaces de l'Antarctique. Et ça, il l'a démontré dans les années 60. Donc on le savait au moins
peut-être dire l'anecdote sur la découverte des tulas.
Non,
c'était le whisky.
Le whisky avec le bloc de glace.
C'était le whisky.
Bah, du coup, il a pris de la glace de l'Antarctique et il s'est dit ça sera de la bonne glace pour mettre dans mon whisky pour refroidir le whisky. Et
l'apéro.
Ça a dégazé quoi. Donc du coup, c'est là qu'il s'est dit c'est peut-être du CO2
qui est emprisonné dans la glace.
Dans la glace, et c'est comme ça qu'il a démontré. Ça, c'est la petite anecdote que moi j'ai avec Claude Lorius, mais j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'étais plus jeune. C'est grâce à lui que j'ai continué. Il n'a pas été pour rien dans mon parcours pour faire de la recherche, parce que le paléoclimat, c'est quand même lui qui l'a. C'était dans les glaces, enfin, c'est quand même lui qui l'a étudié, qui l'a montré. Et donc, c'est quand même.
Du coup, le paléoclimat, on le connaît très bien à partir de la glace, comme je viens de le dire, avec les découvertes que Claude Lorius et le monde de la glace a été faites, qu'ils ont faites. Et il y a moins de choses qui sont sur le continent. Et on voit quand même que le réchauffement climatique, il est plus important à partir de la surface des continents. Qu'on vit sur le continent. Et donc moi, je travaille sur des archives continentales qui sont des sédiments éoliens qui ont été déplacés par le vent et qui ont enregistré les variations climatiques entre les phases glaciaires et les phases interglaciaires. Et donc avec ça, je peux reconstituer le paléoclimat sur le continent et ensuite les comparer avec d'autres archives, que ce soit dans l'océan ou dans les glaces.
Il est remonté jusqu'à quand, Claude?
Alors en Antarctique.
Il y a pas que lui, hein.
Oui, il y a plusieurs.
Son principe a été appliqué jusqu'à
800 000 ans. Ouais. En Antarctique, on remonte jusqu'à 800 000 ans.
Et alors les variations?
Et actuellement, juste pour compléter, actuellement, on espère, en forant dans le dôme C, je crois, atteindre le million d'années.
Oui,
hein,
beyond epica.
Et le nombre de variations importantes sur cette époque?
Donc, c'est tous les 100 000 ans.
Tous les 100 000 ans.
Elles sont connues depuis longtemps parce qu'en fait, alors. Pas avec le détail qu'on a aujourd'hui. Oui. On connaissait les grandes périodes glaciaires et interglaciaires. Oui. Alors, vous avez peut-être déjà entendu ces termes-là, c'est les noms allemands, Würm, Mindel, Ries, etc. Bon, c'est les noms des glaciations qui ont été définis au 19e siècle. En fait, on avait une vision très monolithique des choses. Oui. Un coup, on a un interglaciaire, puis après, on a une période glaciaire. Oui. Aujourd'hui, avec les archives des glaces, on s'aperçoit qu'en fait, à l'intérieur d'une période glaciaire telle qu'on la concevait au 19e siècle ou au 20e siècle, il y a des variations assez importantes. Et donc, des variations à l'échelle de quelques siècles ou milliers d'années.
Oui, donc il y a l'Antarctique qui va jusqu'à 800 000 ans, et donc on voit plusieurs sites glaciaires, interglaciaires. Et après, il y a au Groenland, où on va que jusqu'à 125 000 ans. Et donc là, c'est juste le dernier cycle interglaciaire-glaciaire. Et donc moi, je travaille sur la dernière période glaciaire. Il ne faut pas croire qu'il faisait juste froid et moins 20 degrés. Mmh. Mais il y a vraiment des variations climatiques abruptes. Alors, il ne faisait pas excessivement chaud, mais il y avait quand même au Groenland, par exemple, des différences qui peuvent être de l'ordre de 5 à 10 degrés pendant la période glaciaire.
Mais n'oubliez pas que le Groenland, il s'appelle comme ça.
Greenland,
ça veut dire que quand il a été découvert par les Vikings, il était vert.
Il n'y a pas eu de la glace tout le temps, mais pendant la dernière période glaciaire, il était en glace.
C'est peut-être pas inutile de rappeler le processus qui donne le côté génial à l'observation de Claude Lorius, c'est que quand la neige se dépose, vous avez tous déjà vu de la neige se tomber, il y a des bulles, il y a de l'air qui est emprisonné, c'est plein d'air, et au fur et à mesure qu'elle se tasse, cette air va s'emprisonner sous forme de bulles à l'intérieur de la glace, et donc c'est littéralement fossilisé. Quoi. Donc on a des archives, des capsules du passé qui sont enregistrées comme ça dans la glace, et donc c'est en faisant fondre la glace qu'on libère ce gaz et qu'on peut l'analyser, et savoir quelle est la quantité de CO2 qu'il y avait dans l'atmosphère pendant qu'il y avait une glaciation, et quelle quantité il y en avait pendant qu'on était en interglaciaire. Et c'est d'ailleurs avec ça que je faisais la confusion tout à l'heure, sur la teneur en CO2 de l'atmosphère, parce qu'on s'aperçoit qu'entre un glaciaire, une période glaciaire et une période interglaciaire, on varie, c'est de 180-200 parties par million, ppm, de CO2, et qu'actuellement, on est en train d'exploser les scores, puisque on a passé les 400 ppm actuellement, 420 même, je crois.
480
même,
je crois.
C'est possible, je n'ai pas les derniers chiffres. Enfin, en tout cas, ne cesse d'augmenter. Quoi. Et là, on est vraiment sorti complètement de la gamme de variation glaciaire-interglaciaire.